Merci à tous. Donc on enchaîne sur notre prochaine table ronde des punks et des images. Donc je suis ravie d'avoir à ma droite Paquito Bolino, donc qui est fondateur, éditeur, artiste donc du Dernier Cri, Benoît Carbonel alias Béton Cité et Pierre Prouvez, donc qui a fait toute une série de photographies à la fin des années 70.
Sur nitrate.
Donc on peut peut-être commencer par toi, Pierre, échanger.
Alors oui, nitrate sur le toit du Palais Longchamp. Alors à l'image de nitrate, quand même, monter sur le Palais Longchamp, vous ne pourrez pas. Il faut voler une clé, ce qui a été le cas. Et c'est emblématique de nitrate parce que effectivement, c'est sur Marseille. Alors on verra peut-être si je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'au bout de toutes les photos. Simplement, deux petits rappels que je voulais faire à propos de nitrate. Pour ma part, je ne suis pas punk. Hein,
Quoique.
D'autant que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et à l'époque, nitrate, parler de punk, on n'employait pas le mot. Hein. Y a une photo où on voit que sur les murs où nitrate était très souvent, moi je leur disais peut-être plus souvent que sur scène, c'était nitrate rock urbain. Le mot de punk, c'était pas un mot qui était employé à l'époque. Quand je dis à l'époque, je parle des années 80, entre 79 et 81. Hein, c'est des photos. Donc, alors, ils savaient par contre se mettre en scène. Il suffisait de les suivre pour les avoir en image. Et tout à l'heure, on évoquait rébellion par rébellion, etc. Nitrate est quand même né, moi je m'en rappelle, ça, non pas parce que j'étais avec eux, mais parce que je les suivais d'un peu près. C'est né quand même du mouvement lycéen des années, ça doit être 79, et notamment de ce qu'on appelait le groupe Les Peintres de Diderot. Et c'était une bande de copains. Je pense à Dominique, entre autres, qui un jour, on l'a vu sur le Provençal, en train de lancer un grand pavé contre l'inspection académique. Son père était commissaire de police. Voilà, ça donnait un peu la couleur de la chose. Et donc ça, c'était comment ils se sont rencontrés. Et alors, oui, je ne sais pas si Christian est là, mais Alain est là. Et je revois Alain et Christian sur le canapé de la Fonjouque chez les parents d'Alain, midi, l'émission Midi Première, Daniel Gilbert, aucun rapport avec le punk, quoique, et le générique, c'est tan 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 tan. Et ça fait quoi? Con et fier de l'être, voilà. Et donc, une des chansons et je les revois et je les réentends. Alors, c'était mes petits frères, hein, on doit avoir 20 ans de différence. Et en continuant un petit peu ce que je voulais un peu en raconter, il y a eu plusieurs, peut-être qu'on ne les verra pas, mais c'est il y a eu plusieurs concerts. Le premier concert important, c'était Rock Against Police. Alors, à une des organisatrices, un jour, j'ai expliqué que la banderole de Rock Against Police dans le concert, c'était pas ça, c'était le rock contre la police. Alors on m'a dit non, c'est pas vrai. Bon, j'ai dit les photos montreront que c'était le rock contre la police. On le disait à la française, non à la marseillaise peut-être, hein, voilà. Et donc les nitrates, c'était ça. Et c'était, alors, oui, tout à l'heure on disait qui sait à quel endroit on pouvait jouer. Rock Against Police, c'était à la Viste, dans les locaux paroissiaux, un vieux patronage tout pourri, vraiment tout pourri, où il y avait tout le monde. Je regrette de ne pas pouvoir montrer, il y avait même une femme enceinte que j'ai photographiée parce qu'il se trouve que c'était une copine, donc je me suis dit ça peut être montré qui y a dans cette population. Des jeunes. Oh, je pense, Alain, Francis, qui s'est mis son casque, qui avait tiré un coup de boule à un gars qui n'était pas trop content, et puis qui monte sur scène parce qu'on était de nitrate, parce qu'on était musicien, mais aussi parce qu'on était les amis de nitrate. Hein. Et juste peut-être pour m'arrêter, je m'arrêterai là un petit peu sur ce que j'ai à dire, la fête des ghettos au Merlan. Tout à l'heure, je ne sais plus, quelqu'un a parlé de OTH, je crois qu'il y avait OTH. Il y avait aussi un groupe, alors un groupe qui a disparu complètement, Euthanasie. ça s'invente pas. Hein. C'était, c'est un groupe, je crois que ça devait être un de leurs rares concerts qu'ils ont fait. Bon, et il y avait, évidemment, il y avait Nitrate. Et puis, il y avait, mais qui n'est pas sur les photos, il y avait la belle Olga, évidemment, chanteuse hein, à l'époque. Et pour revenir juste au début, le concert Rock Against Police, Olga chantait, elle n'avait que son bassiste, et elle n'avait pas de batteur, et elle n'avait, sinon, elle n'avait qu'un guitariste, elle n'avait pas de batteur, elle n'avait pas de bassiste, et du coup, Rémi à la batterie, Christian à la basse, ils ont joué en compagnie. Je crois que c'est la rencontre de Nitrate avec Olga. Évidemment, après, Olga a chanté, voilà. Voilà, je voulais dire ces petites choses. Je regrette qu'on ne puisse pas voir les photos de concert, mais bon, c'est... Alors ça, c'est effectivement Rock Against... Eh oui, Patrick, il y avait Baron Rouge à l'époque où tu avais des cheveux. Hein, c'était... On ne te verra pas là, mais je te les montrerai les photos. C'est... Donc, Nitrate, toute première version, avec effectivement Rémi, Alain, Alien, Christian, Philippe, il n'est pas là Philippe, guitariste à l'époque... Et effectivement, ce concert-là, on n'en a pas parlé, je trouve que c'était un peu dommage, on n'a pas parlé de ce qui était un peu les pogos, hein, les fameuses bousculades qui se faisaient. Moi j'avais entendu parler des pogos, soi-disant ça faisait mal, etc. C'était d'une gentillesse, là, c'était les punks qui sont gentils, si on les appelle les punks, hein, voilà.
Merci beaucoup Pierre. Est-ce que tu peux nous parler juste du contexte de Rock Against the Police ? Si tu te souviens.
Oui, alors Rock Against Police, c'était quand même un mouvement international, hein, puisque un peu partout en France et à l'étranger, il y avait des concerts de ce type-là. Et effectivement, c'était des jeunes de la Caillole qui avaient organisé ça, des travailleurs sociaux, je sais que... Et c'était en fait au moment où effectivement il y a eu pas mal de jeunes qui ont été flingués par la police. Hein, je veux dire, c'est entre... 77 et 81, il y a eu un certain nombre de morts. Pour rappel, au Flamand, Wari Ben Mohamed, flingué dans un contrôle de police par un flic qui dit « Ce soir, j'ai la gâchette facile, il y a un livre du frère de Wari là-dessus. »
Après, on enchaîne avec Paquito Bolino.
Enchaînons.
Chénon, tu peux nous présenter le
Ouais, donc en fait, je peux présenter le film, mais je vais présenter plein de choses. En fait, ça, c'est le film d'animation qu'on a fait quand le dernier cri s'est installé à Marseille, c'est-à-dire en 1995. Donc, je ne suis pas de Marseille, mais j'habite là depuis 24 ans, donc peut-être que je suis de Marseille maintenant. En tout cas, moi, je viens de Camargue, dans un petit village de merde, où on se faisait chier dans les années 80 ou 70. Quand le punk est arrivé, bah, pareil que d'autres qui ont parlé avant, c'est le plus fort. Moi j'étais dans un village en Camargue, je me faisais chier, et je regardais la télé des fois, et j'ai vu Chorus, et j'ai vu les enfants du rock, et j'ai vu Divo, je sais pas, les Clash, comme le monsieur qui était là tout à l'heure. J'ai découvert dans les magazines à l'époque, parce qu'il y avait des magazines, je parle aussi comme un vieux con, comme tout le monde aujourd'hui, j'ai découvert des super magazines en kiosque où on pouvait voir... découvrir les Cramps, des groupes incroyables qui ont joué après en France d'ailleurs, quoi. Et après, je suis venu au dessin et à l'animation et aux images par la musique, parce qu'à l'époque, dans mon village, Aigues-Mortes en Camargue, on faisait des groupes, donc on pourrait faire l'histoire du punk à Aigues-Mortes, mais ça serait encore moins terrible qu'à Marseille. En tout cas, je suis allé après à Angoulême, c'était l'école où il y avait de la bande dessinée, donc à l'époque, les gens de mon âge s'intéressaient à la bande dessinée, au rock, c'était très lié ensemble, d'autant plus que dans les médias officiels, c'est-à-dire la télé et les magazines, on diffusait l'imagerie rock, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient liées, dont beaucoup de choses qui étaient liées avec le graphisme et la musique, comme par exemple le personnage qui parle là, c'est Pascal Douy, qui était un dessinateur qui à l'époque... sévissait dans divers supports, style Rakiri, Metal Hurlant et toutes ces choses. Donc moi, après, je suis parti à Angoulême parce que je voulais faire de la bande dessinée en rêvant du nouveau paradis qui allait me sortir de mon village pourri, quoi, de Camargue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'Angoulême, c'était aussi merdique que n'importe où, surtout les écoles, souvent c'est merdique. Et donc, mais par contre, j'ai rencontré d'autres gens, d'autres jeunes artistes, qui était aussi dans l'école. Il y avait une salle de concert qui ressemblait un petit peu au sous-marin. Donc c'était l'époque où il y avait ces cafés-concerts comme ça,
qui s'appelait, je sais plus comment, Mazouen, un nom bizarre, où j'ai vu les beurriers noirs, où j'ai vu, je sais pas, tous les trucs de Boucherie Production, tous ces trucs-là, tout le rock alternatif de l'époque, et voilà. Et après, je suis allé à Paris. Je suis allé à Paris en rêvant de pouvoir être publié dans ces magazines, genre Metal Hurlant, mais malheureusement, ça n'existait plus. Je faisais un groupe à l'époque de hardcore qui s'appelait La Mâchoire. Je suis allé à Paris en croyant trouver un label comme Bondage Records pour sortir mon disque. Mais c'est pareil, ça avait été racheté, c'était la dernière année, ça n'existait plus. Et du coup, je me suis retrouvé à Paris à travailler dans un atelier de sérigraphie comme employé, en voulant imprimer mes trucs à moi et essayant de trouver des connexions sur Paris. Mais en fait, Paris, c'est un endroit toxique, où tous les gens sont là, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas de place pour la création quand elle est désintéressée. C'est-à-dire, quand pour moi, c'est l'art total. L'art total n'a pas de place à Paris, à part quand les gens sont morts, quoi. Donc, en fait, à cette époque-là, j'arrivais pas à trouver de lieu à Paris pour exposer, pour imprimer. Enfin, c'était vraiment déprimant. Et je répétais avec en banlieue, dans un lieu, dans un squat qui s'appelait le KS, Centre Autonome d'Expérimentation Sociale, avec un batteur, Dilip, ancien batteur d'un groupe que vous connaissez peut-être, les Coronados. Mais on répétait là. Et en répétant là, j'ai vu qu'il y avait un atelier de sérigraphie plein de machines qui servaient pas, quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à utiliser le matos de sérigraphie, et c'est là que j'ai commencé à faire le dernier cri. Et quand j'ai commencé le dernier cri, j'ai pas commencé avec un esprit de galerie ou du milieu de l'art contemporain, j'ai commencé avec un esprit rock alternatif. L'idée, c'était d'avoir, pour moi le plus important, c'est ce que m'a appris le punk, c'est le do it yourself, et je continue à le faire depuis que j'ai commencé à faire ça. Le plus important, déjà, c'est d'avoir un lieu de production, comme un lieu de répétition, ou comme un lieu d'enregistrement. Donc, j'ai monté mon atelier de sérigraphie dans ce squat. J'ai commencé à inviter des artistes qui traînaient à Paris, qui faisaient des bouquins en photocopie, mais qui n'avaient pas accès à la sérigraphie. Donc, j'ai dit, venez, on va faire des trucs en couleur, on va faire des trucs plus grands. Et voilà, ça a commencé comme ça, le dernier cri. Et au bout de 2 ans, la situation devenait critique dans le squat. Et à ce moment-là, j'ai eu une expo à Marseille, dans une boutique qui s'appelait Divinyl, qui a fermé depuis. Et voilà. Et là, il y a eu une expo du dernier cri. Et à l'époque, il y avait la MJC Mirabeau, avec les Kids The Thrill, qui faisait la programmation. Et là, j'ai joué avec mon groupe La Mâchoire, à l'époque, quoi. J'ai fait une expo là. Et là, j'ai découvert la ville, quoi. Et j'ai découvert la friche, qui à l'époque était une vraie friche, qui ressemblait à un squat, mais qui n'était pas un squat. Mais en tout cas, j'ai vu un endroit où il y avait de la place, et je me suis dit peut-être que là, je peux installer mon atelier de sérigraphie. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ça va? J'ai bien résumé? Un pastis, s'il vous plaît. Oh, je finirai en disant que depuis ce temps-là, je suis à Marseille, que Marseille est une ville sale, que Marseille est une ville énervée, donc Marseille est une ville punk.
Et en ce moment, il y a 2 expos.
Ah oui, bah, c'est bon, on continue. Alors voilà, donc depuis Marseille 2013, cet événement merveilleux qui a quand même sali un peu la ville, dans le mauvais sens du terme, à mon goût. Je peux faire des expos à la Friche Belle de Mai sur un plateau d'expo. Donc, et on fait un festival aussi de micro-éditions tous les mois de décembre, en tout cas jusqu'à maintenant, qui s'appelle Vendetta, où j'invite des petits éditeurs européens qui font surtout de l'édition en sérigraphie, à montrer leur travail. Donc en ce moment, il y a une expo qui dure jusqu'à mi-février, je ne sais même plus quand, mais où il n'y a que des sérigraphies. Ça s'appelle Six Screen Land. Six Screen en anglais, ça veut dire écran. Six Screen, ça veut dire écran malade. Voilà. Donc si vous voulez voir des images imprimées avec des écrans malades, allez voir l'expo à la Friche Belle de Mai. Et si vous voulez voir une expo beaucoup plus impressionnante, venez à 7. Je ne sais pas si vous allez à 7 des fois. Il y a un musée qui s'appelle le musée international des arts modestes. Et là, on fait une expo à partir du 7 février, qui dure 8 mois, où là, on montre tous les films du dernier cri, tous les livres qu'on a fait, les sérigraphies, et j'invite aussi tous ces éditeurs européens à montrer leur travail. Donc voilà. Ça va, là, j'ai assez fait.
Parfait. Merci. Venez au dernier cri. Merci.
Le 7, à partir du 7 février jusqu'au 20 septembre. Ah oui, et oui, et le 20 janvier, dans notre atelier à la Friche Belle de Mai, donc dans notre atelier de sérigraphie, on fait des expos tous les 2 mois, et la prochaine expo, c'est le 20 janvier. Venez, nombreux.
Et c'est gratuit. Merlant.
seule à la...
Ah oui, aussi, il y a une expo au Merlin, bah oui, c'est ça.
À la bibliothèque.
Expo, samedi prochain, à la bibliothèque du Merlin, l'après-midi, à la projection des 4 films du dernier cri d'animation, un peu comme ceux qui passent derrière, là. Et c'est gratuit, et c'est au Merlin, et c'est dans le département de Ravier, et on la merde.
Nous avons Benoît Carbonel.
Graphiste, illustrateur, porteur d'ampli, membre fantôme de plusieurs groupes marseillais et éventuellement dessinateur de bande dessinée. Donc en fait là c'est, je vais vous faire un petit topo, je vais raconter un peu mon parcours vite fait. Moi je viens du Vaucluse, j'ai grandi dans les années 90 là-bas, il se passe rien, il y a deux concerts de punk si on a de la chance par an. C'est vraiment de grands événements. Donc je m'ennuie, c'est difficile de trouver des informations quand on commence à s'intéresser au punk. Il se passe pas grand chose à part acheter des magazines. Il n'y a pas de magazine de punk de toute façon, c'est des magazines de hard rock, donc j'écoute du métal au début. Et ensuite c'est aller traîner dans les médiathèques et éventuellement trouver quelques CD. Donc voilà, ça se passe comme ça. Je me dis, bon, j'ai envie d'étudier l'illustration, le graphisme. Je me rends sur Marseille. Et là, je me dis, bon, ça va, c'est cool, il va y avoir plein de concerts, ça va être beaucoup plus développé que dans le Vaucluse. Et en fait, pas tant que ça. J'arrive dans peut-être une période de creux, je sais pas trop ce qui se passe avant, mais début des années 2000, 2003. Il y a un petit peu la machine à coudre qui sert de plus ou moins de catalyseur, il se passe un peu des choses autour. Mais en dehors de ça, pardon ? Ouais, l'incassable aussi, mais j'ai assez peu fréquenté. Là, le premier truc que je vous présente, c'est un fanzine qui s'appelait Le Dernier Neurone. C'est un fanzine de bande dessinée. C'est un truc que j'ai découvert en traînant sur Marseille. C'était réalisé par des punks et des mecs qui étaient plutôt dans le délire techno, si je ne me trompe pas, plus ou moins. Mais on trouve quand même des connexions avec de la bande dessinée alternative, des trucs comme Tank Girl par exemple, pour ceux qui connaissent. Et c'est des visuels qu'on peut retrouver sur pas mal de pochettes de punk et assimilés dans le délire BD alternative. Donc, je disais à Marseille, il se passe rien, mais en fait, c'est parce que j'ai pas les bonnes connexions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime bien musicalement, parce que c'est vrai que je dis qu'il se passe pas grand-chose. Quand j'y arrive, il y a beaucoup de concerts, mais c'est beaucoup de concerts de garage. Et c'est pas un genre de musique qui me plaît particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les trucs un peu plus durs, le hardcore, le crust, le D-beat, l'anarcho-punk. Et en fait, ça, je vais le trouver par des connexions assez étranges, parce que je fais du graffiti aussi, et je rencontre des gens qui peignent dans les squats. Et de fil en aiguille, je prends connaissance de l'asso Akratos, qui organise des concerts dans un squat qui s'appelle le Rockab, et qui édite, par exemple, là, vous pouvez voir le fanzine Voilà Squat, qui était édité à l'époque, j'ai réussi à trouver deux numéros extrêmement rares, très précieux. Là, c'est les flyers. Alors, j'ai peu de flyers de l'époque, parce que, bizarrement, j'ai fait pas mal de concerts, mais je les gardais pas tous. J'avais pas encore le truc de la collectionnite. Donc là, vous avez des flyers pour des concerts du Rockab, des prospectus, des tracts qui traînent dans les salles de concert, des tracts étranges, ésotériques. Il y a aussi des concerts de hardcore. Là, ce sont des concerts de hardcore à gauche. On peut voir que ce sont des photocopies luxueusement imprimées en couleur. Dans le hardcore, on a un peu plus de moyens. Et à droite, c'est des concerts de garage. Je crois que c'est Jean-Claude Gaudin. Et je crois que c'est Olivier Gasoil qui a fait ce flyer pour son groupe, dans sa gravation. Alors, ouais, ensuite, résurrection à partir de 2008-2009 pour moi. Je commence à m'intéresser un peu plus à la scène et je découvre. Il y a beaucoup de salles qui s'ouvrent. On a le Bundy's qui va se transformer plus tard en Sale Gueule. Il y a l'Entropie qui est une salle rue Consola qui est gérée par les gens de Filthy Charity, un groupe de grind et de crust qui va voir débarquer toute la scène de cette mouvance-là, de beaucoup plus du punk dur, engagé, énervé et extrême. Pas mal de métal aussi et des concerts de rap et de cumbia qui a été un bon catalyseur. Et on a toujours la machine à coudre et pas mal de squats qui vont s'ouvrir aussi. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'a pas beaucoup parlé de squats, mais il y en a pas mal. Misère économique oblige à Marseille, beaucoup de bâtiments abandonnés et beaucoup de gens qui les investissent, pas mal de collectifs. Donc il va y avoir des squats comme la Katiba, la Caserne, la Torpille un peu plus tard, le Mamba et ainsi de suite. Des lieux qui ont souvent des durées de vie assez rapides. Et voilà, mais qui contribue à faire tourner la scène. Il y a des événements qui s'organisent, comme le festival Nailed and Patch. On peut voir un des flyers avec pas mal de groupes. Les messes noires, ça, ce sont des soirées goth post-punk. Les bistrots distro, ça, c'est des événements où on retrouve les activistes de la scène marseillaise, donc les petits labels qui présentent leurs sorties, qui se retrouvent de manière informelle dans divers lieux. Là, j'ai mis le flyer des 20 ans de la machine à coudre. Pour ceux qui ont connu le lieu, qui est malheureusement fermé aujourd'hui, voilà, ça vous rappellera quelques souvenirs. Et voilà, bon, ça c'était les quelques... Ah oui, ça, ce sont des flyers réalisés par d'autres artistes. En haut, on a Soya. Là, on a Gibbs au milieu. Et à droite, c'est Julien Loïs. Alors à gauche, j'ai peur de me tromper, donc je ne vais peut-être pas la citer. Voilà. Et ça, ce sont des fanzines. Et ce sont des fanzines auxquelles j'ai participé. Donc j'ai fait les couvertures. Spasme, c'est un fanzine qui est réalisé entre Avignon et Marseille. D'Obédience anarchiste, et How to Write Dirty, c'est un fanzine qui est édité par le label BMA, qui est Bad Moon Association, qui organise des concerts de hardcore et de punk rock sur Marseille aussi. Voilà, ça c'est pour la partie 2000-2010.
Parce que les chats sont sales.
Ouais, les chats sont sales, ça va bien avec la ville de Marseille. Marseille c'est chaotique, c'est crado, voilà, c'est ce que ça m'a inspiré.
Alors est-ce qu'il y a des questions sur les trois présentations, et qu'on a eu un rythme un peu rapide, un peu effréné.
C'était super rapide.
Mais on peut prendre le temps.
Sous pression, là. J'ai oublié de mentionner l'embobineuse, ouais.
Et aussi, donc, quand je me suis installé à Marseille, il y avait donc la machine à coudre, qui malheureusement est fermée pour le moment. Peut-être qu'un jour, ça sortira ailleurs, on ne sait pas. Et il y a une salle qui a ouvert à Belle de Mai, donc, il y a plus de 10 ans, qui s'appelle l'embobineuse, qui, au départ, était une salle... C'est un lieu qui a été loué par des artistes pour faire leur atelier. Et après, dans le garage, ils ont fait une salle de concert. Donc c'est une salle qui est beaucoup plus axée au départ sur la performance et la musique noise, mais maintenant qui est ouverte un petit peu comme la machine à coudre, en fait, à une programmation gérée par d'autres labels locaux. Donc voilà, donc c'est une salle qu'il faut soutenir. Et depuis que c'est ouvert, le dernier cri imprime toutes les affiches en sérigraphie de la bobineuse.
Juste pour parler, effectivement, on parlait punk, j'entendais chacun s'occupe de soi, etc. Bon, même si on a évoqué l'importance de l'humain, ce que je peux dire quand même, c'est que à Nitrate, en tout cas, Alain jouait dans Nitrate et il disait, ça y est, je suis libéré, j'ai tout quitté, mon père, ma mère, etc. C'était pas si simple que ça, c'est ce qu'il chantait avec Nitrate, et puis le petit frère, il venait avec moi, chanter l'événement, et ça, Nitrate a vécu le temps qu'il a vécu, et puis Nitrate est devenu Absenta, aussi il faut se rappeler, je veux dire, pas avec tous les mêmes, et Absenta venait avec Chanson de l'événement dans la rue, sur le Vieux-Port, au mobile, et on faisait deux parties de chansons, Chanson de l'événement, chanter les événements qui nous avait titillé, l'assassinat d'un jeune immigré, le Sahara occidental, etc. Et Absenta chantait, rechantait, c'est la fugue, etc. Voilà. Et je tenais à mettre en parallèle les deux, parce qu'effectivement, Nitrate a eu souvent une sorte d'image, je veux dire, réac, peut-être, parfois, et n'empêche qu'il y avait ces choses-là. Et s'ils avaient été que réac, je n'aurais pas été avec eux. Donc, voilà.
Des questions. S'il n'y en a pas, on peut boire un pastis.
Ah ouais, on peut boire un pastis, une bière. Donc, qu'est-ce que. Oui, en fait, le mot de la fin, non, certainement pas moi. Ah oui, non, là c'était plus des voilà une série d'affiches que j'ai réalisées. Parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai que j'ai montré une collection de vieux flyers, mais il y avait absolument rien, quasiment rien que j'ai réalisé moi. Voilà, ça c'était les Filthy Charity, c'était un groupe de Crest Grind, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui gérait l'Entropie, une salle qui nous manque pas mal. Là c'était une tournée anglaise, j'avais détourné la Croix de Camargue, et c'était assez rigolo, ça leur avait plu. Ouais, il y a des choses un peu plus graphiques, pas mal de détournements. Ça, c'était une compile de soutien qui n'est bien évidemment jamais sortie, en hommage à la salle de l'Entropie. On retrouve tous les poncifs de visuels de la scène crust, du pointillisme, des têtes de mort, de la décrépitude, tout ce qu'on aime. D'infimes et multiples variations autour des crânes, parce que dans le punk, la tête de mort, c'est quand même un artefact visuel.
Chez les SS aussi.
Ouais, chez les SS aussi, bien sûr. Qu'on retrouve pas mal. J'ai mis des trucs un peu plus mignons. C'est de l'indie rock, c'est normal. Après, je fonctionne pas mal par série quand je fais des illustrations. Les concerts de soutien, inévitables aussi, et indispensables. Les CRS, qui sont une source d'inspiration infinie, également. Ils sont pas chers, et ça fait toujours plaisir. Et Marseille aussi, source d'inspiration inépuisable. Ces scènes de rue qui m'inspirent pas mal, ouais. Et je voulais finir avec ce prospectus. Qui c'est bête, méchant, stupide, punk, que j'ai eu l'idée de faire au moment où le chantier de la plaine a commencé, avec ces beaux murs de béton et en même temps les immeubles de Noailles qui s'effondrent de l'autre côté. C'était une atmosphère assez pesante dans le quartier à ce moment-là, et du coup c'était tellement énervant que l'idée est venue tout de suite, toute seule.
Juste pour le mot de la fin, quand même, Yann n'est pas là, mais la maison hantée, le rôle de la maison hantée pour les uns et les autres, on l'a dit, mais je crois qu'il faut jamais cesser de le répéter, parce que Yann a subi aussi des interdictions. On disait toujours quand il y avait 200 punks, oui, d'accord, mais n'oubliez pas que le lendemain, il recevait le papier d'interdiction. Et ça, Yann, il a reçu les groupes de toute l'Europe, etc., et y compris les petits chanteurs comme nous, hein, je veux dire, les tout petits chanteurs, mais il acceptait...
Les petits chanteurs à la Croix de Fer. Et maintenant, vous avez le droit de fumer dans la bibliothèque.
Voilà.
Merci à vous. On va bouleverser légèrement le programme, c'est-à-dire que on va faire une pause. Par contre, si vous allez boire un petit coup ou aller aux toilettes, ne loupez pas la performance de Lionel Martin au sax qui va nous reprendre les Stooges. C'est vraiment une perf sympa à suivre. Donc si vous pouvez rester, hein, au lieu d'aller aux toilettes ou boire un coup, je vous y invite.